Dès son accession au pouvoir, il a mené à bien un certain nombre de réformes, dont certaines ont assez rapidement amélioré le sort de la population. Je pense en particulier aux réformes de la police, notamment aux réformes de la police routière, aux réformes dans le domaine de l'éducation, qui ont abouti, par exemple, à l'éradication très rapide de toute la petite corruption, celle auxquelles étaient confrontés les gens dans leur vie de tous les jours. Dans les premiers mois du premier mandat de Saakashvili, on a vu que des routes se construisaient, on a vu qu'effectivement, des choses se faisaient dans un pays qui semblait complètement léthargique auparavant.
Ces réformes ont-elles des limites ?
Les limites, c'est que le sort de la population s'est assez peu amélioré depuis 2004. Une très très grande majorité de la population est sans emploi, n'arrive pas à trouver de travail et évidemment, du coup, la désillusion est à la hauteur des attentes que la population géorgienne avait mis dans la nouvelle équipe. Et puis, enfin, disons que la nouvelle équipe a été tentée d'imposer des réformes par le haut et en essayant d'affaiblir encore plus tous les contre-pouvoirs possibles. Depuis l'arrivée au pouvoir de Saakashvili, les autorités ont également fermé la principale télévision d'opposition.
Sur les partis d'opposition, il y a 5 figures qui se présentent face à M. Saakashvili pour ces présidentielles. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs vraies figures fortes de cette opposition et qu'est-ce qu'elles proposent ?
Alors, il y a des personnalités. L'une d'entre elles, c'est bien sûr l'oligarque Badr Patarkhatchvili. Mais un des paradoxes de l'opposition actuelle, c'est que, à part Badri, il n'y a pas de gros leaders charismatiques. Les 9 formations qui s'étaient alliées au moment des protestations de cet automne ont désigné Levan Gachetchiladze, qui est une figure particulièrement peu charismatique. C'est un homme qui a été choisi justement parce qu'il ne suscitait pas d'opposition majeure, parce que c'est une personnalité, somme toute, assez neutre. Mais du coup, dans un contexte de parti faible, l'absence de leader charismatique est un problème pour l'opposition.
Alors, l'opposition a-t-elle une chance de remporter, selon vous, ces élections ?
Les sondages donnent quand même des intentions de vote extrêmement élevées pour ces candidats, ce qui est en soi surprenant. Alors, ça ne signifie pas que c'est comme ça que les élections vont se passer, hein, mais le fait même qu'un nombre important d'électeurs disent qu'ils vont voter pour une figure extrêmement peu charismatique, regroupant des formations incroyablement hétérogènes et sans programme, montre à quel point est élevé le degré de désillusion et de déception par rapport à Saakashvili.
Ce même jour, il y a un référendum sur l'adhésion de la Géorgie à l'OTAN. Est-ce que ça, c'est plus de la stratégie, j'allais dire, diplomatique au niveau du pays, ou est-ce qu'il y a là aussi un enjeu pour les Géorgiens ?
La majorité des Géorgiens est favorable à l'adhésion à l'OTAN, donc je crois qu'il s'agit plutôt d'une mesure purement politicienne. Ça a été pensé comme un instrument de propagande pour Saakashvili. Maintenant, il faut voir aussi, justement, si cette opposition généralisée au pouvoir en place va pas avec le temps, déboucher sur une opposition au soutien de Saakashvili et donc sur une montée des sentiments anti-occidentaux et anti-atlantistes. La Géorgie est certainement un des pays au monde où les Américains ont meilleure presse. À ce qu'on voit avec le discrédit, malgré tout, de Mikhail Saakashvili, c'est que cette popularité extrêmement forte des Américains risque de s'éroder.